Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à grand témoin de la province de l'Équateur. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Alexis Sandola Ifepe. Il est cadre de la territoriale et actuellement, il est conseiller principal chargé de la cellule politique, administrative et sécuritaire au cabinet du gouverneur de province, Monsieur Alexis Sandola. C'est un plaisir de vous recevoir dans grand témoin. Et donc, avec vous, dans cet entretien, nous allons pour faire découvrir auprès des auditeurs des radios Okapi, nous allons parler de votre parcours, votre expérience au sein de la territoriale. Mais avant cela, commençons par une petite biographie de votre personne. Vous êtes originaire de l'Équateur. Vous êtes né à l'Équateur?
Bon, d'abord, bonjour madame. Et merci d'avoir pensé à notre modeste personne.
Merci.
Je suis originaire de l'Équateur, comme vous l'avez dit. Et vous venez de précision sur mon territoire, de terre d'origine. Je suis de Bolomba, mais je suis né ici en Bamako, en 1941.
Quel jour du mois et quel mois de l'année?
C'était le 21 septembre.
Uh-huh. Et c'est en Bamako où vous avez passé votre enfance, vous avez fait vos études ici?
Tout en Bamako, absolument. Né en Bamako, j'ai fait des études, que ce soit primaire, que ce soit des études scolaires. C'est chez le père des écoles chrétiennes. Donc on appelle groupe polaire, c'est des professeurs des écoles chrétiennes. Après, je devais travailler, et puis j'ai interrompu mon travail pour aller aux études.
Universitaires.
Bon, études supérieures, dis-moi, appelons ça comme ça.
Après les études humanitaires,
oui.
Secondaires.
Après les études secondaires, nous avons été à l'École nationale d'administration et de formation territoriale, d'où nous sommes sortis. Certifié, donc on remet un certificat à l'issue de cette formation-là.
Toujours ici à l'Équateur?
Non, c'est à l'ICASI.
Au Katanga.
L'ICASI au Katanga. À partir de là que je suis entré dans la
territoire. Dans la territoriale. Alors, vous avez grandi dans quelles conditions?
Des conditions qui étaient les conditions de mes parents.
C'est-à-dire?
Mon père était tout d'abord un fonctionnaire, pendant l'époque belge déjà, et il était fonctionnaire. Et l'indépendance, on a fait l'africanisation du cadre, et il est devenu administrateur du territoire tout d'abord, au bassin Koussou, et puis il a eu une promotion de commissaire de district, toujours à l'Équateur, donc à bassin Koussou.
Vous avez suivi un peu les traces de votre père?
On dirait que c'est une vocation de la famille.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance, pendant que vous grandissiez?
Bon, la discipline et l'ordre qui régnait à l'école, c'était des écoles tenues par les pères.
Et des bonnes écoles.
Oui, des bonnes écoles. Le groupe scolaire a tenu sa renommée. D'une école qui formait de bons cadres jusque maintenant. Je pense que même le président du Sénat est parti de là. Beaucoup de cadres comme Mokolo Akombo, dont vous voyez quelle qualité de cadre. Ils sont sortis de cette école. Donc c'est un bon souvenir que d'avoir été dans cette école-là. Et les amis que je rencontre maintenant ne sont pas déçus de leur formation, d'avoir appartenu à cette école.
Vous-même non plus, vous n'êtes pas déçus?
Je ne suis pas déçu du tout. Parce que c'est ça la base qui m'a permis d'affronter d'autres domaines après.
Alors, M. Sandola, vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Oui, je suis marié et pour le moment, j'ai 13 enfants en vie.
Une grande famille?
Une grande famille, madame. J'ai donné le cadre à la province et à la République.
Et à la République. Et donc, après vos études à l'ICACI, vous êtes lancé dans la territoriale. C'était un souhait personnel de travailler dans la territoriale ou c'est parce que papa avait travaillé dans la territoriale? Vous vous êtes dit, pourquoi ne pas faire comme mon père?
Bon, je n'en viens pas tellement le poste qu'avait occupé mon père. Mais je n'avais pas de choix non plus.
Pourquoi?
Comme nous avons été dans une école qui formait les administratifs ici au groupe scolaire, c'était la section administrative et commerciale. Donc on était déjà en train de devenir un commis dans un bureau. Et lorsqu'on a ouvert cette école de formation territoriale, on a dû choisir par poste, par site. Par exemple, la province, sur le chef-lieu, on a choisi deux candidats, dans chaque district, deux candidats. Et tous ces candidats allaient pour une promotion donnée à l'ICACI. Et comme moi j'étais les affaires intérieures, j'étais secrétaire de direction, hein, le poids du directeur provincial est tombé sur moi. Hein, c'est-à-dire que j'étais sagi pour aller. Et puis alors, l'amour de la territoriale est né dans moi.
Vous étiez juste choisi, il n'y avait pas de test à passer?
Non, il n'y avait pas de test.
Mm-hmm.
Il n'y avait pas de test.
Et c'était organisé sur toute l'étendue de la République?
De la République. C'était sous l'égide du ministère de l'Intérieur.
Après vos études à l'UQAFI, votre premier poste était dans la province orientale?
La province orientale. Tout d'abord, je suis rentré, hein, après l'étude. On devait faire une formation, un stage de sur place. Nous, on est parti. Après le stage, pour les probants, et c'est ainsi qu'on nous a alors éparpillés dans les provinces, dans d'autres provinces. Quoi.
Vous êtes allé en province orientale.
Orientale.
Est-ce que c'était les candidats qui choisissaient ou bien c'était décidé au niveau de la hiérarchie?
Ça se décidait au niveau de la hiérarchie. Tout se faisait à Kinshasa, le ministère de l'Intérieur, vous communiquez la liste de la mise en place, signée par le ministre, et moi j'ai retrouvé mon nom dans la liste de la province orientale pour le territoire de Banalia.
Alors, vous vous retrouvez dans une province que vous ne connaissez pas?
C'était la première fois que je faisais le sol de Kisamali.
C'était quoi vos premières impressions que vous êtes retrouvé dans la province orientale, sans famille, j'imagine?
Oui, on avait quelque peu des hésitations. Quand vous devez aller à Kisamali, vous devez aller à Kisamali à ce moment-là, vous aviez peur de ce qu'on appelait les Mouélés. Alors, c'était des gens qui n'avaient pas de l'ordre, comme maintenant, on en trouve un peu dans l'ambassade là-bas, des gens qui viennent avec des dromadaires ou avec des chevaux pour attaquer les villageois. Hein. Mais on avait peur d'aller parce qu'il y avait dans les Mouélés des troubles. Alors, si vous devez aller dans les Mouélés, il faut être vraiment coriace. Et le président Obutu nous avait donné des assurances que cela allait très bien partout et tout le monde pouvait aller travailler dans le coin qu'il veut ou bien dans le coin où l'on voit, dans la République.
Et la population vous a bien accueilli lorsque vous êtes arrivé?
Bon, j'avais trouvé la situation déjà calmée, aplanie. Hein. Quand nous sommes arrivés, on trouvait des cadres d'ailleurs qui n'étaient pas originaires, qui nous ont accueillis et qui nous ont présenté aux fonctionnaires avec qui on devait travailler.
Est-ce que c'était une bonne politique, la politique des non-originaires que le président Mobutu avait menée?
Il avait expérimenté ça et nous avons trouvé que ça avait des preuves. Des preuves que ça mettait tout d'abord les enfants du pays ensemble. On pouvait aller dans un coin, si on est affecté officiellement, on est accueilli et on est obéi. C'était une bonne chose, c'était une bonne expérience.
Et vous, qu'est-ce que vous préférez, la politique des non-originaires ou des originaires?
Mais pour le moment, on peut travailler, maintenant c'est la conscience d'un homme. Hein, quand vous voulez travailler, si vous voulez faire quelque chose, je n'ai pas dit que les non-originaires avaient pu trouver du bon travail. Hein. Non, il y avait des gens qui ont gâché, tout comme il y a des gens qui ont travaillé quand même.
Mm-hmm.
Même ici, si vous avez des originaires. Mais les originaires gâtent aussi. Les non-originaires continuent aussi, peuvent aussi gâter.
Donc on peut utiliser les deux, originaires tout comme.
Oui, faire respecter simplement le bête d'instruction qui régisse l'administration.
Et avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut.
Naturellement, c'est ça qu'il faut.
Alors dans la province orientale, vous y êtes resté pendant combien d'années?
Bon, je suis allé dans la province orientale de 74, hein, de 1974. 1998.
Et qui était devenu votre deuxième province?
C'est ma province, même je me ferais même y lire là-bas. Si j'ai fait faire. J'ai laissé même des emplois là-bas, figurez-vous. Pour nous, l'Est, c'est quand même un peu fini.
Lorsqu'on est commissaire des zones ou commissaire des zones assistants, c'est un peu une pension aussi politique.
Oui.
Pourquoi vous avez préféré rester dans des fonctions politiques ou administratives que vous lancez dans la politique politique?
Bon, nous avons la qualité d'un politique ou administratif, et cela va de soi parce que quand on dirige un territoire, on dirige les hommes. Hein. Bon, la politique, c'est la science de diriger les hommes. Même du côté du temps des Européens, on pouvait bien les appeler politique ou administratif aussi. Ben, ils ont préféré se faire appeler à des certains territoires, mais hein, ça ne changeait rien quant aux attributions, quant à la mission qu'on nous confiait. Donc, c'est simplement le nom qui avait changé. Bon, nous avons une carrière également, comme fonctionnaire. Hein, comme fonctionnaire. Mais nous avons un mandat politique administratif pour diriger les gens pendant un temps Et si on trouve que votre travail mérite d'être reconduit ou qu'on vous maintient sur place ou bien qu'on vous envoie là où vous devez réserver les postes, on vous utilise. Mais il n'y a pas eu de croire comme tel. C'est le système que nous avons trouvé que nous respectons.
Monsieur Nicolas, il y a certains observateurs qui disent que pendant la Deuxième République, les territoires étaient mieux administrés qu'actuellement. Quelle est votre réaction?
Bon, c'est difficile de répondre à cette question parce que il faut aller voir ce que fait chacun des territoriaux. Hein, c'est comme je vous ai dit, madame, c'est, ça dépend de la personne qu'on envoie là-bas. Si on envoie quelqu'un de consciencieux, il arrive quelque part, il dresse son programme, et je crois que, à l'exécution de ce programme, on va le juger. Hein. Mais si vous n'êtes pas conscient et que vous êtes un gaffeur, que vous ayez été à la territoriale du temps de Mobutu, que à la territoriale de maintenant, je crois que votre caractère vous enverra faire du bien ou faire du mal.
Après la province orientale, vous revenez à l'Équateur, toujours pour continuer votre parcours dans la territoriale.
C'était pour continuer le parcours, mais c'était un mouvement général. En mouvement général, à un certain moment, on a voulu opter pour la territoriale des originaires.
C'était dû à quoi?
Encore une fois, une inexpérience. Hein, on a cru que les territoriaux qui ne sont pas chez eux, qui travaillent dans des postes qui ne sont donc qui ne sont pas originaires, hein, parfois, ils n'ont pas tellement de soucis de ce que pourrait devenir ce coin. Hein, c'est ainsi qu'on a voulu que chacun rentre un peu travailler chez soi et on verra ce que cela rapporterait. C'était un peu dans ce sens-là. C'était une expérience qu'a tenté le ministère de l'Intérieur et nous y sommes encore. Je vois que la tendance est d'envoyer des territoriaux non originaires dans d'autres provinces. La tendance est de revenir.
Est-ce que vous êtes revenu dans la province de l'Équateur? Vous étiez toujours commissaire des hommes ou bien vous avez gagné des échelons?
Là, j'avais déjà eu une promotion à partir de la province orientale, à partir de Dungu. C'est un territoire, un très bon territoire à côté du Chiro. J'avais eu une promotion de commissaire de district assistant. Et j'étais affecté à Bounia, dans l'Ituri.
Oui.
Et c'est de là, après 2 mois, que j'ai été envoyé à l'Équateur. Normalement, je devais passer pour Bassin Koufoumé. J'avais été gardé ici comme maire de la ville à Bounia.
C'était en quelle année, là, déjà?
Là, c'était en 1998.
En 1998, vous êtes revenu à l'Équateur, vous avez occupé le poste de...
Le commissaire urbain, c'est-à-dire maire de la ville adjoint.
Pendant combien de temps?
Bon, j'étais maire pendant 6 mois. Et puis après, j'ai eu une promotion de maire populaire.
Jusqu'à l'arrivée de... à la chute du maréchal.
À la chute du maréchal en 1997.
Comment vous avez vécu ce moment-là, lorsque le régime du maréchal Mobutu est tombé?
Bon.
Vous qui avez travaillé avec le maréchal, comment vous avez vécu ce moment-là?
Quand l'Abdel descendait, c'est le voir le sens du fleuve, quand l'Abdel descendait, nous entendions une fusion de mouvement. Et on entendait ce que les autres faisaient là-bas lorsque les forces de libération entraient. Et ici, nous avons aussi été conscientisés par le général qui était en même temps gouverneur de la province ici. Il nous a dit que quand les libérateurs entrent, il ne faut rien faire. C'est-à-dire, ne pas prendre les armes contre eux. Vous quittez vos bureaux et vous allez vous mettre chez vous à la maison et attendre le communiqué. Parce qu'à ce moment, on se battait vraiment presque plus. L'Abdel avançait sans rencontrer de résistance. Et c'était le cas de Mbandaka. Et nous sommes restés à la maison pendant 2 jours. Et puis après, on a eu un communiqué. Quand on a ouvert la radio, on a demandé aux techniciens de la radio de passer. Nous avons suivi. On demandait aux gens de rentrer dans leurs affaires, dans leur bureau, dans leur travail. Et on lançait un message particulier au maire de la ville que j'étais. Que je viens au bureau, que j'ouvre le bureau et que j'appelle la population au travail, qu'on ouvre les magasins, il n'y a plus rien, le pouvoir est déjà assis et on soit tranquille. C'est ainsi que nous avons repris le travail, la vie normale, et après 2 semaines, après des élections.
Mais avec une certaine crainte.
Une certaine crainte, bien sûr.
Vous n'étiez pas prêt à aller en exil?
Non.
Vous n'avez pas été inquiété?
Parce que, non, on n'a pas été inquiété ici. On a trouvé que le pouvoir était déjà entre les mains des libérateurs à Kinshasa. Alors ça ne servait à rien de commencer et de continuer. Inquiéter les gens.
Mais vous n'êtes pas resté maire lorsque l'appel est arrivé.
Non, puisqu'on a organisé les élections, les élections populaires au stade. Alors on a élu un gouverneur, on a élu son vice, on a élu le maire, le mandataire, on a élu également son vice. Et nous, nous sommes restés à l'écart. Bien entendu, on disait
que... Est-ce que vous étiez représenté, vous étiez présenté à ces élections-là?
Non, j'avais cru que il était bon pour moi de rester non partant. Je le savais bien, je venais de faire 6 mois sur 6 ans sur place. Bon, les gens avaient cette connue-là de voir les changements. Alors j'ai préféré ne pas me présenter.
Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes occupé?
Non, on a fait la remise de reprise avec les élus. Et puis après, on nous a demandé de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Nous restions fonctionnaires. Nous restions fonctionnaires. L'argent, quand la paye venait, nous avions une liste sur laquelle nous nous se trouvait et on nous payait.
Radio Capine, grand témoin.
Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Alexis Sandola IFP. Il est ancien cadre de la territoriale. Actuellement, il est conseiller principal chargé de la cellule politique, administrative et sécuritaire au cabinet du gouverneur de la province de l'Équateur. Monsieur Sandola, on était en train de parler de votre parcours au sein de la territoriale. Et donc, lorsque l'appel est arrivé, vous vous êtes reposé avant d'être nommé encore une fois de plus maire de la ville de Mbandaka.
Après, je suis redevenu maire.
Là, c'était en quelle année?
Là, c'était...
C'était après la mort de Laurent Désiré Kabila?
Oui. C'était, vous voyez, quand en 2005, il y a eu la répartition du pouvoir entre les 5 dirigeants, le système grand fiscal. Voilà. Et les villes de la République avaient été réparties en fonction de ces grands ensembles-là. Le MLC, auquel je faisais partie, le MLC avait la ville de Mbandaka, entre autres villes. Après la ville de Mbandaka, étant donné que moi j'étais membre du MLC, qu'est-ce qu'on avait fait à ce moment-là? On a cherché un territorial qui valait la peine pour garder, pour prendre la ville.
Et comme vous aviez des expériences,
comme j'avais déjà de bonnes, certainement une bonne nouvelle qui m'entourait, certainement que le président du MLC a mis son dévolu sur moi. C'est ainsi que mon nom était retenu. Le président Bemba est allé présenter mon nom au président de la République qui a pris l'ordonnance qui nommait les maires et moi j'avais été repris pour la ville de Mbandaka, le compte du MLC.
Vous savez que partie du MLC?
Non, pour des raisons personnelles, j'insiste dans le MLC.
Et vous êtes de quel parti maintenant?
Je suis dans la DH.
La DH, le parti du gouverneur de province.
Bon, c'est lui le fondateur, mais comme il a fondé quelque chose que nous avons tous apprécié, ça devient notre cause à nous tous.
Apparemment, c'est un parti qui n'existe qu'à l'Équateur.
Bon, nous sommes au début. Comment ça n'existe qu'à l'Équateur? La DH, c'est un ça, la DH, c'est un Kinshasa. Notre président national est originaire de la province orientale. Le président national, Joseph Bonakia. Ah, là, au Bandundu, là, dessus, tout au Bas-Congo. On est déjà là. Oui, madame.
Monsieur Alexis, de la mairie de la ville de Mbandaka, on vous retrouve directeur de province.
Oui, d'abord directeur de province, puis ensuite mon dernier mandat de la mairie.
De maire.
Bon, j'ai été pendant 2 ans directeur de province, de 2000 à 2002.
C'est quoi la différence entre directeur de province et maire de la ville?
Bon, c'est le nom tout d'abord qui est différencié et le travail qu'il doit faire. Un maire de la ville, c'est un territorial debout, un homme qui va sur le terrain, un homme qui dirige une entité. Tandis que le directeur de province est un haut fonctionnaire. Il reste, il est comme le collaborateur immédiat du gouverneur en matière d'administration. C'est ça. Il n'y a pas tellement de différence. C'est le même grade. Ils sont tous directeurs de grade, sauf qu'on appelle l'un maire de la ville et l'autre directeur de province. Le directeur, c'est un administratif. Il reste dans son bureau, il reçoit. Les institutions du gouvernement, ils coordonnent les activités de toutes les divisions provinciales. Je dirais qu'il est déconcentré, tandis que les autres sont des décentralisés.
Alors, on va s'occuper un peu, M. Alexis, de la FFP. Quand vous n'êtes pas au cabinet, comment vous passez votre temps?
Quand je ne suis pas au cabinet? Oh, ça, pour moi, c'est connu de tout le monde. Hein. Quand je quitte le cabinet, le patriarche de sa direction, c'est sa maison à Bongondo. Je suis dans la banlieue, à 6 km de mon bureau. Et surtout, je quitte le bureau à 17h. À 17h, le gouverneur est là, des fois, nous quittons vers 20h. Nous quittons quand il quitte. Et alors, je suis tout à la maison. Bien que je m'arrête un peu en route, mais pas pour longtemps.
Samedi, dimanche, vous travaillez aussi?
Samedi, nous travaillons, nous quittons le bureau à 14h. S'il y a du. Si nous voulons nous rattraper sur le courrier qui est en retard, nous continuons. Mais dimanche, je n'ai jamais vu que nous devons quitter. Le dimanche, on allait à l'église, et après l'église, on se reposait tout le bois, ou bien on faisait sa lecture, on écoutait la radio grand témoin.
On écoute aussi la musique, quelquefois.
La musique, c'est vraiment quelque chose qui plaît à l'oreille, hein. Mmh. Qui plaît à l'oreille.
Ouais.
Ce qui ne m'attire pas, c'est la musique avec trop de bruit. La musique douce, la musique symphonique, non? La grégorienne, ou bien, comme je dis dans mon téléphone ici, j'ai Mozart, c'est bon. Et l'opé jazz et la pique en jazz en Syrie, tout ça, c'est la bonne musique.
Ça me rappelle des.
Tout comme j'imagine, ça me rappelle un peu comment je poussais de temps en temps un pas de danse. Je serais menteur si je vous dis que je n'aurais pas dansé. Je serais menteur. Sinon, je ne suis pas un homme. Hein,
ça fait du bien pour toi.
Je n'ai pas vécu. Voilà. Beaucoup de mariages de bonnes amies. Hein?
Vous avez vécu.
Je ne peux pas trop le regretter, mais je dirais au Seigneur, je ne suis pas pressé non plus de partir. Hein. Et je dirais, comme le psalmiste avait dit, Seigneur, ne me levez pas encore maintenant. Que je termine le travail que vous m'avez confié. C'est l'éducation des enfants.
Mais les enfants, ils ont déjà grandi.
Oui, oui, mais ils ont des petits-enfants que je prends volontairement en charge. Je n'aime pas rester sans enfant, surtout sans bambin à la maison. Hein.
Tout ce petit bruit-là vous fait du bien.
Le fond du bien. On dirait que ça fait partie de quelqu'un qui a grandi. Hein. Ça fait partie de sa vie. Hein. On est obligé d'entendre, un enfant qui casse un verre là-bas, on vient, on répare ça par un coup de gueule, et puis c'est fini. Le matin, on est content d'avoir remplacé ça, tu répasses un verre, et il te regarde.
On revoit la musique de OK Jazz.
Oh oui, OK Jazz, c'est un orchestre géant.
Une des chansons qui vous a beaucoup marqué dans le répertoire de OK Jazz?
Je voudrais vous demander de me parler de cette question.
Pourquoi?
Parce que j'aime beaucoup de chansons de jazz, surtout de compositions de notre ami Simaro, de compositions du regretté Madilou. Hein. Ce sont des gens qui ont composé des chansons vraiment sensationnelles.
Et donc, je peux faire le soir moi-même?
Vous
pouvez choisir une chanson maintenant pour vous souhaiter un bon dimanche.
Ah, par exemple. Grand merci, ma fille. Grand merci.
Mais j'espère seulement que cette chanson vous fera plaisir.
Oui.
On va trouver une dans le répertoire de Monkey Jazz.
Oui. Surtout de Simaro.
De Simaro, merci.
Oui.
Il est toujours difficile d'être aimé que de nous. Sangi kuma na ile kote sayo, soki mweza yuko kawana, mabele kimote mano bebie, na pesa yuberte osakana, ya bini sonaka etala iloko, eloko eko bunga loki o mama. Thank you.
Thank you.
Radio Capi, Grand Témoin.
L'invité de Grand Témoin aujourd'hui est Alessie Issanjo, l'AFP. Il est ancien cadre de la territoriale. Actuellement, il est conseiller principal chargé de la cellule politique, administrative et sécuritaire au cabinet du gouverneur de la province de l'Équateur.
Monsieur Alessie Issanjo, vous êtes patriarche ici dans la province de l'Équateur. Tout le monde vous respecte. On a l'impression que la province de l'Équateur a du mal à se relever ou à se développer. Cela est dû à quoi?
Bon, du mal, je ne sais pas.
On dit que c'est la dernière province en RDC à pouvoir faire des efforts de développement.
Bon, tous les efforts, je crois que nous devons tout d'abord au départ avoir un programme d'action. C'est notre programme d'action qui peut amener les gens à faire un pas vers le développement quand même. Si on ne respecte pas un programme d'action, c'est alors à ce moment-là qu'on connaîtra de retard. Mais si nous avons, hein, on nous classe parmi les derniers, ou bien le dernier, je ne sais pas rapport à quoi, hein, parce qu'il y a des provinces qui n'ont pas ce que nous avons ici. Est-ce qu'on va dire pour autant qu'ils sont en arrière par rapport à nous, non? Nous voulons faire un effort comme tout le monde, vous l'avez plus vrai, mais ce que nous regrettons, c'est ce sont des petits coups bas politiques, des gens qui ne veulent pas que, parce qu'on est parti et qu'on parte. Parce que moi, je suppose que si nous avons des idées divergentes, hein, mais il faut mettre tout d'abord l'Équateur, nous devons tout d'abord converger vers l'Équateur, nous tous. Hein, chacun avec ses idées, mais tout faire pour atteindre tout un objectif, ce qui est le développement de l'Équateur. Hein. Même l'opposition doit travailler pour le développement de l'Équateur. Mais on ne peut pas gérer le programme parce qu'on n'aime pas celui qui dirige.
Et on apprend qu'il y a même des divisions entre PIF et l'Équateur. Est-ce que ce n'est pas ça qui freinerait le décollage de la province?
En quelque sorte aussi, hein. Mais ce n'est pas tellement ça seulement. Hein, en quelque sorte, les divisions, parce qu'on a dit qu'ils ont fait la force, mais les divisions ne font pas la force. Quand on est divisé, c'est chacun qui cherche à faire échouer celui qui dirige la balade. Hein, et c'est regrettable. Mais on essaiera au cours des tables rondes, au cours des rencontres, nous essaierons de venir ensemble.
Pour bientôt.
Ouais, je ne suis pas pessimiste. Hein. Je ne suis pas pessimiste, c'est pas possible. Il suffit que quelqu'un se lève le matin et convoque, comme les animaux malades de la peste, hein, et convoque le congrès de tous les animaux. Et là, je donne notre compassion pour savoir d'où vient la porte.
Est-ce qu'il y a cette volonté-là?
Il y en a qui ont cette volonté.
Alors, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Bon, mon avis, tout en ne sachant rien faire.
Hein, en tant que patriarche, notable de l'Équateur.
Oui, en tant que notable, nous nous sommes déjà impliqués dans cette affaire-là. On a déjà vu les uns et les autres. Hein, nous leur avons dit que ce n'était pas bien, il fallait un peu d'eau dans leur vin. Mais nous avons comme l'impression qu'il y a certainement des gens qui poussent à l'extérieur, des gens qui sont en train de d'esquiller pour que les choses ne puissent pas marcher. Et nous regrettons que ce notre organe délibérant, et c'est ça qui peut faire l'équilibre hein, entre l'exécutif et la population qui dirige. Puisque l'exécutif ne peut pas rester hein, sans un organe hein, regardant. Et l'organe regardant, c'est l'Assemblée provinciale. Et c'est une institution de la Constitution. Hein? Je pense que nous ne pouvons pas être d'accord, nous devons être fiers de ce qui se passe. Si nos députés peuvent mettre un peu de vin, un peu d'eau dans leur vin, ça sera pour le bien de la population.
Alors vous êtes, actuellement vous êtes conseiller principal chargé de la cellule politique, administrative et sécuritaire au cabinet du gouverneur de province, surtout par rapport à la situation de l'Assemblée provinciale.
on apprend que c'est le gouverneur de province qui serait à la base de tous ces désordres que l'on vit à l'Assemblée provinciale.
Rien de plus faux, madame. Rien de plus faux. Parce que l'Assemblée, les députés clament partout eux-mêmes qui sont autonomes et ils sont la première institution de la province. Comment peuvent-ils se laisser entraîner par le maquis à l'exécutif? Et ce sont ceux qui contrôlent l'exécutif. Hein? C'est que ce sont de mauvais députés. Moi, je ne pense pas que ça soit vrai. Hein? Et je voudrais même qu'on passe cette question rapidement. Je ne veux pas qualifier les gens. Ce sont mes frères et je cause avec eux. Tout à l'heure, hier soir, j'étais à voir l'emploi avec quelques-uns d'entre eux. Et ça, il y en a qui regrettent aussi, parmi les députés, que cela soit arrivé.
D'accord. Vous avez pris votre retraite?
Oui.
Depuis quelle année?
Ma retraite est intervenue en 2008.
La fait dans le cadre de la territoriale?
Dans le cadre de la territoriale, donc comme fonctionnaire, hein, supérieur, dans le cadre alors de la territoriale.
C'est ça.
Alors, je suis arrivé jusqu'au grade de secrétaire général. Et nous voilà.
Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus actif dans la vie politique.
Naturellement, je travaille à côté du chef, à côté du gouverneur. Comme conseiller, j'essaie de vous donner le meilleur de moi.
Vous êtes présenté aux élections de 2011 à la députation nationale.
Oui, j'étais candidat à député national.
Malheureusement,
j'ai été voté, mais pas élu.
On entend ça de tout celui qui n'a pas été, qui se retrouve pas à l'Assemblée nationale. C'est la même chose.
Je n'étais pas élu. Et ça ne me gêne pas tellement, hein, parce que nous étions 78, c'est 98, hein. Mais très souvent, j'ai été élu dans la ville de Mbadala. Nous sommes, nous en sommes, et là, qui sont restés à temps, la fois prochaine.
Toujours à la députation nationale ou bien les provinciales aussi vous intéressent?
Non, je veux voir si je peux avoir ces ambitions-là. Mais je suis bien, bien content là où je suis maintenant. Je vais donner des conseils, je vais travailler hein, à côté du gouverneur et hein, former les jeunes. Mmh, bien travailler.
Radio Capine, grand témoin.
Alexis Sanjola, ICP. Sanjola, ICP,
oui.
Votre nom a une signification particulière, stratégique, quoi?
Vous me racontez? Bon, Alexis, je ne sais pas, hein, c'est, ça c'est
non, Alexis, le prénom. Ouais.
Le prénom, et c'était le jour même de mon baptême, et qu'on était allé chercher dans la grande liste là, le nom masculin hein, d'Alice. Hein. Alexis, c'est le masculin d'Alice. Puisque j'ai ma grand-mère qui était décédée juste à ma naissance, et on a cherché son homonyme. Alors on a trouvé que c'était Alex. Ça, on me l'a donné. C'est vrai, une signification aussi. Bon, ils sont de là. Et je ne sais pas si vous pouvez comprendre un peu le mot mongre.
Vous allez traduire pour moi.
Dans toutes les pensions de l'Église, hein, quand on est au sein de l'Anzambé,
pour prier, louer Dieu.
Oui, oui. Hein? C'est ça, au sein de la sœur. Quand on jetait des jets comme ça, au sein de la
sœur. Et c'est qui?
Ah, il se fait, je lui ai dit, c'est quoi? J'ai pris ça dans la vie de grand-père.
Vous avez allé chercher à savoir?
Non, il était sur Coutillier, il était chez lui, il habitait une colline. Hein? Il dit, voilà, c'est là-bas où vous voyez, en monticule, là, c'était un peu ça.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Pardon?
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ah, le mensonge.
Qu'est-ce
que vous détestez? Je déteste le mensonge, madame. Je déteste le mensonge. Puisque moi-même, j'en ai été victime, je veux dire. Hein? Je n'aime pas le mensonge parce que ça peut tuer. Hein? Quelqu'un a menti, il a mis de grosses affaires sur mon dos et n'eût été la perspicacité, la sagesse à ce moment-là de muser Kabila. Hein? Je serais oublié. On a menti, on a mis des choses très très lourdes pour moi. Et maintenant, ces gens n'osent pas me regarder dans les yeux. Il y en a qui vivent encore ici qui avaient menti. Hein?
Et donc vous détestez le mensonge?
Je déteste le mensonge parce que ça peut amener à la mort.
Qu'est-ce que vous aimez?
Le calme, la compréhension entre les gens. Hein? Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se supporte. Hein? J'aime bien le plat.
Votre plat préféré?
Bon, compte tenu de mes possibilités financières, hein, j'aime bien manger. Vous connaissez le fondue?
Tout le monde connaît le fondue, bon. Vous savez bien Mayotte.
Fondue, fait de Mayotte, c'est ça que je mange 4 fois par semaine. Hein, 4 semaines, 4 jours sur 6, c'est pas ça.
Ça fait pas trop?
Non. Au contraire, si je n'ai pas ça, le corps réclame ça. J'aime le fondue, le riz, et si c'est le poisson, ça doit être le poisson fumé. Hein? La viande, je n'y compte plus parce qu'il paraît que c'est ça l'origine de mes gouttes. Mm-hmm. Parce que je souffre de gouttes énormément.
Là, c'est quand on en mange trop.
Quand on en mange trop, mais quand on a mangé, on en a mangé beaucoup. Hein? Et puis alors, ça a des répercussions quelques années après. Quoi. Et les médecins le disent, il y a des moments où ça se calme. Hein? Je pique un morceau et quand je sens que j'abandonne.
Alors, monsieur Alexis, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi,
oui.
Particulièrement les Équatoriens et Équatoriens. Quel message vous lancez?
Je dirais particulièrement aux territoriaux. Ça, c'est ma grande famille. Je garde un très bon souvenir de la territoriale. Vous, c'était quand on était là, dans un village, quand vous faites votre itinérance. Vous restez le soir autour du feu, vous entendez les gens qui dansent, et les chefs qui vous donnent des conseils, qui vous apprennent la procédure coutumière quand il y a un mariage. Tout d'abord, un message à tous ces territoriaux, vous persévérez. La territoriale est une fonction exaltante. Aux Équatoriens, j'aime bien que nous soyons ensemble. Et dans un troupeau, il n'y a qu'un seul chef. Hein? Que les Équatoriens se mettent à côté, tout autour de Bahimbe, le gouverneur de province, qui lui disait le courage de lui demander leur part de travail. Hein? Pas d'argent, mais de travail. Que chacun fasse un travail. Il a déjà créé beaucoup d'entreprises d'emplois ici, et je crois qu'il va continuer, mais à condition que le monde accepte de venir autour de lui, pour que nous puissions construire, rebâtir et refonder l'Équateur.
Monsieur Alexis, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Et puis, on vous souhaite un bon dimanche.
Merci, madame. Tout le plaisir était pour moi.
Merci. Le grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Alexis Ispanjola FP, l'ancien cadre de la territoriale, actuellement le conseiller principal, chargé de la cellule politique, administrative et sécuritaire au cabinet du gouverneur de la province de l'Équateur. Merci à toute l'équipe de Mbandaka qui nous a aidé à préparer cette émission. La technique était assurée par André Mongo au micro qui l'écoutait. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite au programme sur la fréquence de la paix. Thank you.